CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce MAG. Aujourd'hui, on vous proposera une visite croquée de la ville de Caussade. C'est pour ce samedi, c'est ouvert à tous, même ceux qui ne savent pas dessiner, même ceux qui n'y connaissent rien en patrimoine. On vous proposera aussi la fête du fer et du feu de Nègrepelisse. C'est dès ce vendredi jusqu'à dimanche. Mais avant ça, et puisqu'on est mardi, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorges de l'Aveyron, avec aujourd'hui Victor Le Guenec.
Bonjour et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on parle nature, rythme, extinction et lumière, avec tout d'abord ce roman de Richard Laganèse, Les étoiles s'éteignent à l'aube, qui nous narre l'histoire de Franklin, dans les terres sauvages du Canada, élevé par un vieil homme à l'indienne, dans une ferme isolée. Élevé au rythme des saisons, de la chasse et du travail de la terre. À 16 ans, il n'a jamais connu sa mère et n'a aperçu son désastre de père que 5 ou 6 fois, jusqu'au jour où son géniteur, Eldon, détruit par l'alcool, mourant, le réclame. Il veut être enterré en pleine nature, comme un indien. Comme un guerrier. Et s'ensuit une expédition en pleine forêt et le récit du père. Un roman simple, direct, sans détour autre que ceux qu'empruntent les deux protagonistes qui n'ont de parents que le nom. C'est d'une tristesse effroyablement sévère sans jamais tomber dans le pathos. Eldon est un être veule, détestable au comportement inexcusable. Et là, je périphrase pour rester radiophoniquement poli. Mais Franklin l'emmène en dépit du passé, naturellement, mais sans pardon. Un pardon que le daron ne cherche pas. D'ailleurs, il veut raconter son histoire. Pas pour s'excuser ou se justifier, juste pour dire, une fois, la vérité. C'est rugueux, taiseux, d'un bout à l'autre, avec un silence et une nature omniprésente qui couvre les rapports tendus, mais paradoxalement totalement francs et sincères du père et du fils, de l'alcoolique et du rejeton, avec une écriture d'une sobriété éthylique, sombre et dure, maturée, extrêmement touchante par moments. En bref, un texte pudique, tragique et pourtant magnifique et saisissant, toujours juste et rempli d'émotions, mais à vous qui explorerez ce roman, préparez vos mouchoirs. Après lecture, ça vous reste en travers de la gorge, avec un goût d'amertume doucereux qui nous laisse muets. Après l'extinction des étoiles, on passe à l'ombre des soleils, avec le tailleur de cire, Wax Taylor, et son album The Shadow of the Suns, pardonnez mon accent. Plus qu'un album, d'ailleurs, une histoire, construite, enténébrée, mais cadrée vers la lumière. Reste à choisir si c'est le bout du tunnel ou un éclair d'espoir. On avait l'habitude de plus colorer, mais ici, dès la jaquette, on entrevoit l'élégance sombre des morceaux qui vont suivre. Un 6e album de 13 titres qu'on a attendu longtemps, le temps, et là, je cite, « le temps pour observer la lumière depuis l'ombre, le tourbillon de la vie, ses excès, ses dérives et ses violences symboliques. » Un album donc qui se dépeint en noir, mais en reprenant les classiques, en mixant samples, scratch, instruments et voix, le tout bien rythmé, avec une touche hip-hop. C'est une musique qui réveille les morts, littéralement. On y attend Gil Scott Heron, l'un des pères du rap, qui vous chatouille les esgourdes avec une suavité indocile, et toute une tripotée d'invités de luxe dont je vous épargne la liste. C'est modeste, économe, mesuré, et ça vous donne cette sensation d'entendre l'obscurité. En clair, à écouter avec une veilleuse. Et puisqu'on cause lumière, l'album s'achève tout de même sur The Light, message d'espoir dans un monde qui sombre. À écouter d'urgence. Deux œuvres ténébreusement lumineuses à retrouver sur le réseau des médiathèques du QRGA. Bonne écoute et bonne lecture.
Merci Victor. Victor Le Guenec pour la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques de la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorges de l'Aveyron. Juste après la musique, dans ce mag, on vous lance une invitation à la fête du fer et du feu de Nègrepelisse dès ce vendredi.
Trash to the garbage around you. Love, so twisted, good in us. All we know, there's too much that to guess. That's better, I won't care what that goes. Slip away, these tongues are twisted, good in us. All we know, there's too much that to taste. That's better.
Garonne, le MAG.
La deuxième fête du fer et du feu de Nègrepelisse, c'est ce week-end. Ce sera donc le 25 et le 26 juin. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Thierry Rénal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coutelier à Nègrepelisse. C'est sur votre initiative et sur trois autres collègues que cette fête s'est montée pour la première fois l'an passé. Il y a eu 1500 personnes qui sont venues dans les rues de Nègrepelisse attirées par le bruit des enclumes. On aura cette année, outre un marché artisanal et gourmand, bien sûr, exposition, démonstration, alors des stages de forge qui concernent aussi les écoles qui travaillent autour de l'âge de fer, de la fabrication de fours, de l'art japonais, de la forge, du trempé, de la coutellerie, de la taillanderie. Je n'ai aucune idée de ce dont je suis en train de parler. Fête du fer et du feu et de la terre, donc avec la présence des potiers. Comment ça va se passer ?
Ben, ça va se passer. Bon, nous, on est, enfin, moi, je vais parler surtout de la coutellerie parce que bon, c'est mon milieu, quoi. Mais enfin, après, bon, il y a quand même, enfin, on pas les oublier, les potiers, les forgerons, les forgerons ferronniers qui sont là aussi. Plus après, tout le marché gourmand et le marché, d'artisans qui est à l'extérieur. Après, en coutelier, nous sommes, oui, actés pour le moment, un peu plus de 40 couteliers qui seront présents. Ou à ceux qui attendent au moins une semaine, je pense, une cinquantaine. Après, là-dedans, il y a Pascal Marche qui descend de Bretagne, quoi, pour faire le stage de forge, donc.
Donc, deux stages. Alors, forge, hein, parce qu'on parle que taillanderie, coutellerie, forge, trempe. Alors, la forge, c'est quand on prend un bout de métal et qu'on tape dessus et que
on
ça fait un
dessus, on le met au chaud, on tape dessus entre le marteau et l'enclume.
Voilà, ça, là, je comprends.
Voilà, et donc, voilà, c'est deux stages d'initiation qui vont être faits, hein, donc le jeudi et vendredi, l'autre le samedi et le dimanche. Après, il y a Dominique Bargiel avec le K12 qui descend de l'Aveyron. Là, eux, ils travaillent sur l'art japonais, donc ils vont faire un tatara, c'est-à-dire c'est un gros four qui est fait pour fabriquer du métal. Donc on brûle du minerai avec du charbon de bois. Donc là-dedans, ils sont partis pour brûler au moins 300-350 kg de minerai. C'est-à-dire qu'il va sortir un bout de métal là-dedans, parce qu'on rappelle que le minerai n'est jamais à 100% au niveau métal, donc... Au minimum, ça va être 50-50, quoi, ou les deux tiers, quoi. C'est un morceau de fer qu'on appelle loup ou massio, qui va faire entre 150 et 180 kilos, quoi.
Dans un four que vous allez faire sur place.
Le four va être fait dans la cour du château, oui. Voilà. Donc, tout sera visible du public, de toute façon, quoi. Mm. Voilà. Après, il y a une association de Madrid. Après, oui, eux, déjà, ils vont faire donc cette loupe le samedi, plus le dimanche, ils vont faire de l'affinage de matière. C'est-à-dire, ils vont expliquer aux gens. Que fait-on de cette matière qui sort des fours, qui vont finalement est un nodule, quoi, et va être frappé et donc mis en laminé. Et après ils vont tremper au wakizashi et c'est un petit sabre japonais, quoi, voilà, quoi. Donc là on est dans le japonais pur et dur, quoi.
La différence entre forger et tremper.
Trempé, c'est-à-dire c'est le métal quand il sort du feu, il est encore tendre. Hein. Donc après une fois que la lame est quasiment finie. On la chauffe à 850 degrés et après on la trempe dans ce liquide. Quoi. Ça peut être, là, l'occasion pour les sabres, c'est de l'eau. Ça peut être trempé dans de l'huile parce que les acides sont beaucoup plus forts. Quoi. Et la contrainte que crée le liquide sur le métal risque d'amener à la casse. Et ça permet de durcir le métal, quoi. C'est-à-dire on resserre les grains ou les molécules entre guillemets du métal, et ce qui permet de le durcir, quoi.
C'est systématique, non? Ça se fait systématiquement?
C'est fait systématiquement sur tous les outils coupants, parce que sinon on n'a pas de coupe, quoi. On se retrouve comme un fer doux, quoi.
La taillanderie, c'est
toujours du tranchant, mais c'est des outils tranchants, quoi. Ça peut être les haches, ça peut être ce qu'on appelle vulgairement le poudet ou la mascotte chez nous, quoi. Le ciseau à bois, enfin tout ce qui tranche le bois ou voire même la pierre, quoi.
Et alors vous qui êtes coutelier, vous êtes à la fois taillandier et forgeron.
Oui.
J'essaie de me familiariser un peu avec les termes, là.
Oui, moi, je fais des outils, beaucoup pour des artisans du bois. J'ai fait, de la hache de Loire, là, pour des gens qui travaillaient en petite taille, pour les gens qui travaillaient sur les colombages, pour déligner les poutres. J'ai fait du ciseau à bois, j'ai fait des bésigus, j'ai fait pas mal de haches, pas mal d'outils pour le bois, quoi.
Lors de ce salon, donc de ce week-end à Nègrepelisse, démonstration, donc vous nous le disiez, avec la fabrication d'un four, le cramage de minerais, la récupération de ce qui en sortira et sa forge, sa trempe pour fabriquer on ne sait pas encore quoi. Donc des démonstrations aussi avec autour de la terre.
Autour de la terre, il y a les potiers. Enfin, au niveau du fer encore, il y a aussi une association madrilène qui descend pour justement faire de la démo en coutellerie, en taillanderie, quoi. Donc ils sont là pour expliquer tout ça. Bon, il va peut-être falloir parler un peu espagnol pour les comprendre, mais enfin, voilà, les gestes vont parler d'eux-mêmes, de toute façon, quoi.
C'est pareil, de toute façon. On met le truc sur l'enclume, on tape dessus. Et...
Voilà, oui, mais après, il y a quand même des gestes qui sont un peu compliqués pour parler de choses, quoi. Donc voilà, quoi.
Oui, j'imagine, sinon on n'organiserait pas un salon tel que
voilà,
ça.
Oui, tout à fait, oui. Et après, il y a les potiers, oui, les potiers, ils vont faire de la démonstration et exposer aussi tout leur savoir-faire et de même que les ferronniers, quoi. Il va y avoir pas mal à voir aussi, en démonstration, je pense, de poterie. Ça, c'est Marie qui s'en occupe, là, qui est potier en Nègrepelisse, mais il va y avoir pas mal de choses à voir vis-à-vis d'eux aussi, quoi.
Démonstration et exposition, marché artisanal. Alors, toutes les personnes présentes ne sont donc pas des revendeurs, sont vraiment des artisans.
On a tenu le point, que ce soit avec la mairie, enfin, déjà, moi je les remercie de nous accueillir comme ils le font, au niveau de la mairie de Nègrepelisse, et de nous mettre à disposition tout le matériel, que ce soit en matériel proprement dit ou en personnel, quoi. Mais après, à l'extérieur, oui, il y a tout ce marché. Ce marché qu'organise aussi la mairie, là, avec un petit peu de tout, quoi, tout ce qui est artisanat. Mais par contre, on a mis le point d'honneur à voir des gens qui exposent qui ne soient qu'artisans, quoi. Pas de revendeurs, pas de. Et même au niveau du marché gourmand, ce sont des fabricants aussi, quoi.
Alors, vous m'aviez dit hors antenne qu'il y a 4 sangliers qui sont prévus à la broche, ne serait-ce que pour le soir.
Oui, voilà, ça c'est le côté gascon, quoi. Enfin, voilà, on essaie de garder cette manifestation de manière à qu'elle reste, voilà, enfin, avec notre esprit du sud-ouest, quoi. Et donc là, on se retrouve après avec tous les exposants, on va se retrouver le soir, là. Enfin, bon, c'est pas tout à fait le banquet d'Axérix, mais enfin, bon, voilà, quoi, ça risque de tourner un peu à ça, quoi.
La manifestation de l'an dernier, je le disais, a accueilli 1500 personnes à Nègrepelisse pour une première, hein. Petite surprise. Alors, le milieu est petit quand même, hein. C'est vite reconnaissable si une manifestation est de qualité. Là, cette année, vous avez un petit peu doublé les doses, ne serait-ce que avec la présence des
couteliers, on est presque 3 fois plus, quoi. Donc la graine a bien germé, dirons-nous, quoi. La publicité qui a été faite autour par les gens qui ont participé l'année dernière, quoi, ça s'est très bien passé. Tout le monde a plus ou moins bien travaillé. Le public, là, je vois, ne serait-ce qu'au village, qu'on entend parler un peu partout, quoi. Certains attendent que ça arrive, justement, parce qu'ils avaient trouvé ça sympathique l'année dernière. Donc, on a essayé de faire mieux cette année. Alors, que ce soit à tous les niveaux, nous, au niveau coutellerie, tous les autres aussi, toutes les autres corporations, que ce soit les potiers, les ferronniers, ou tout le marché extérieur, quoi, grosso modo, entre tout. Enfin, je sais pas toutes les notes, mais enfin, je crois qu'on est un peu plus de 100 exposants, quoi.
Et c'est pas juste des exposants, justement. On peut déambuler, en apprendre beaucoup sur le geste, sur le savoir-faire, sur la matière, sur tout le vocabulaire que vous utilisez là, dans les métiers du fer et du feu. C'est aussi le moment pour apprendre.
Mais, de toute façon, on est là pour expliquer aussi notre métier, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et, fin, après, ça sert à rien d'être avare, comme ce fut un temps, peut-être une époque. Quoi, mais voilà, quoi. Enfin, comme la tendance à dire chez nous, celui qui dévore des secrets, c'est celui qui cache son incompétence.
J'aime bien ça. Il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, dont j'ai oublié le nom, là, quand on grave sur des couteaux, là, avec le Dremel, le Dremel, le...
Ah non, on ne travaille pas très de beaucoup, enfin, nous, c'est beaucoup de la ciselure. Quoi, hein. Là, il y a une spécialiste qui est là cette année, c'est Marie-Éric Cross, quoi. Elle était là aussi l'année passée, quoi, qui est considérée dans les trois meilleurs mondiaux au niveau de la gravure japonaise. Quoi. Mais c'est tout fait au ciseau, quoi. C'est fait à la main avec un marteau et un murin. Quoi.
C'est quoi la spécificité de l'art du métal japonais?
Alors, le côté, je sais pas comment dire, c'est l'art japonais, c'est ils ont su garder des choses que nous on a perdues. Parce qu'en fait, sur le côté même du métal, quoi, le fer vient des Celtes et du Moyen-Orient. Et donc nous on a perdu là justement ce travail comme on va faire en Dominique Margiel ou comme on l'avait fait l'année dernière, quoi. Cette fabrication artisanale du métal, quoi. Et en Europe, ça a été un peu compliqué. Bon, on a travaillé le Damas, mais avec des aciers industriels, que les Japonais ont continué à travailler encore ces métaux qui viennent directement de la terre. Quoi.
Le Damas, c'est quand on fait comme la pâte à modeler, là.
C'est comme la pâte feuilletée en pâtisserie, quoi. Et on mélange 2, 3 ou 4 matières d'acier. Et donc ces nuances, suivant le taux de carbone, hein, ou le taux de nickel qu'il va y avoir dedans, vont donner des couleurs différentes à la matière. Quoi.
Et la forme qui peut être complètement aléatoire ne l'est pas du tout.
Ah non, c'est pas aléatoire. Le damas n'est pas aléatoire. On a bien tous les pliages qu'on donne une forme. Quoi. Donc d'un côté ou de l'autre, soit après on les plie, on les recoupe, on les retranche, on les rempile les uns sur les autres. Enfin, après, tout est calculé dessus, oui. Bon, alors des fois, il y a toujours une petite part de... Ouais. Mais,
de bonheur.
Mais comment dire, en principe, quoi, c'est quand même relativement calculé, oui.
Tous les corps des métiers autour du feu, du métal, donc, de la terre, ouais. Sur l'esplanade du château de Nègrepelisse, c'est ça?
Oh, oui, tout ce qui est poterie, ferronnerie et coutellerie va se retrouver dans l'enceinte du château. Et après, tout le marché d'artisans se retrouve sous les platanes, à l'extérieur, sur l'esplanade. Quoi. Voilà, en même temps, il y a buvette, il y a de quoi se restaurer, de quoi passer la journée tranquillement. Quoi. Et en famille. Hein.
Plein les yeux, plein le cerveau, surtout. Et plein les oreilles. Hein,
ah oui, parce qu'il y a du feu et du bruit. Quoi.
Et ce n'est pas une association qui organise cette fête du fer et du feu de Nègrepelisse. Pas encore, du moins, on verra peut-être pour l'année prochaine.
On en parlait avec monsieur le maire, oui. Mais enfin, après, là, pour le moment, quoi, c'est organisé par la mairie. Quoi. Là, c'est là, voilà, donc ça fonctionne comme ça. C'est un mélange de tous les gens... Du terroir, si on peut dire, quoi, entre les associations locales qui nous font la restauration, la buvette, le silo, on essaie de travailler les uns avec les autres, quoi, de manière que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi.
On peut venir à partir de quelle heure le matin?
9h.
9h, le samedi et le dimanche, donc on repart quand il n'y a plus rien.
Voilà, donc grosso modo, c'est entre 9 et 19, quoi, voilà. Ouvert entre midi et 2h.
Il faut bien manger pour la fête du fer et du feu donc de Nègrepelisse. C'est ce week-end, on vous retrouve là-bas, Thierry Rénal. Je rappelle que vous êtes coutelier à Nègrepelisse, un des 4 fers de lance organisateurs de cette manifestation.
Ben, on est 4 du département, et donc Bertrand Perrier, Eric Alvarado, et après bon, Jésus Granda qui lui est des Landes, et puis voilà, quoi, c'est les 4 Lascars. Quoi.
Et puis une tripotée d'invités. Hein. On n'a pas les.
Oui, alors là, si on commence à les énumérer, nous, déjà là-bas, j'ai la liste si vous voulez. Mais,
non, pas faudra venir. Hein.
Là, acté pour le moment, on est entre 40 et 45. Quoi, et puis, bon, d'autres qui ont encore appelé en début de semaine. Là, et donc, je pense qu'on devrait arriver à 50 couteliers présents sur le site. Quoi.
Ce week-end, à Nègrepelisse, on vous retrouve là-bas, Thierry Rénal. Merci beaucoup.
Merci.
Musique dans ce mag. Et juste après, on vous invite à une visite croquée de la ville de Caussade. C'est une visite ouverte à tous, même à ceux qui ne savent pas dessiner. Et c'est ce samedi.
FM en Tarn-et-Garonne, le mag.
Du côté de Caussade, ce samedi, une visite croquée nous est proposée par le réseau d'office de tourisme. Claire Wolfi est conseillère en séjour. Bonjour Claire.
Bonjour Lisa.
Visite croquée, ben on profite pour allier patrimoine, art et repartir avec son petit souvenir.
Oui, c'est ça. Alors c'est samedi qui arrive, samedi 25 juin à 14h30. Donc on a une guide conférencière à l'office de tourisme, Romy Barène, qui sera la guide touristique. Donc des monuments de Caussade. On va s'arrêter sur plusieurs monuments, l'ancien hôtel particulier Boudet, la fontaine du Touron, l'ancien château, l'église et la tour d'art. D'ailleurs, les personnes monteront aussi dans la tour d'art et découvriront les peintures de la tour. Et donc, pendant cette visite, avec des explications historiques, il y aura des petites pauses artistiques, donc où les personnes munies de leur carnet de croquis, de leur crayon, ce qu'elles voudront apporter, s'arrêteront et dessineront des petits détails, un bâtiment en entier, ce qu'elles voudront dans Caussade, avec l'aide du coup de Céline Wagner, qui est illustratrice et dessinatrice à Montpellier-Quartier, et donc qui sera là pour aider, orienter les personnes sur le dessin avec leur propre technique.
Ça dure combien de temps cette visite?
Alors, de 14h30 à 17h30.
Il faut venir donc avec son propre petit carnet, son rotring ou son crayon de bois. Et c'est une visite payante.
Oui, c'est ça. Alors, c'est 10 euros par personne, donc pour les 3 heures de la visite. Donc, c'est sur réservation à l'office de tourisme de Caussade. Et donc, en effet, les personnes pourront dessiner sur leur support. Et ensuite, on pourra les récupérer à l'office de tourisme, en faire des scans, des photocopies et les exposer à l'office de tourisme en juillet et en août.
C'est pas la première fois que vous faites une visite croquée en quartier Caussade?
Et si, c'est inédit.
Ah bon? Je croyais qu'il y en avait une la semaine passée ou...
Alors non, il y a eu une visite depuis la Roque la semaine passée.
belle association entre le patrimoine, un moment, un patrimoine et la culture, un moment pour justement permettre de s'approprier un petit peu mieux les éléments qui composent pour le coup la ville de Caussade et non pas Puy-la-Roc comme la fois dernière. Une visite croquée à laquelle il faut s'inscrire auprès de l'office de tourisme du Quercy Caussadais. C'est ce samedi, on le disait, de 14h30 à 17h30, 3 heures pour se perdre dans les détails de la ville de Caussade. Merci beaucoup Claire Wolf, conseillère en séjour.
Merci à toi.
Et merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous tout au long de ce mag qui sera par ailleurs rediffusé à 17h et à 21h30. Vous pouvez aussi le réécouter en podcast sur le site cfmradio.fr. Les infos.